C'est parti, bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu Pays Basque avec aujourd'hui le chef étoilé de l'auberge basque de Saint-Pé-sur-Nivelle, Cédric Béchat. Bonjour Cédric.
Et bonjour, je suis venu chercher le soleil.
Curieux, ah, c'est ça, c'est pour ça que... Il est pas loin.
Non mais chez vous je le trouve tout le temps, quel que soit le temps.
Ah mais ça fait plaisir, c'est gentil. Merci en tout cas d'être avec nous, on est très content de vous accueillir ce matin. L'invité du jour est connu pour son savoir-faire dans l'élevage des agneaux, mais aussi l'élaboration du fromage et du fromage d'estive. La preuve, il travaille avec de belles tables du Pays Basque, dont évidemment l'auberge basque de Saint-Pé-sur-Nivelle. Bonjour Jean-Bernard Maïtia.
Bonjour.
Vous êtes connu comment tous les deux d'ailleurs avec Cédric Béchat?
Par l'intermédiaire Beignat, notre fromager célèbre de Saint-Jean-de-Luz.
Et depuis, vous travaillez ensemble?
Exactement.
Pour l'agneau, le fromage, pour les deux?
Bah pour les deux, et même plus encore.
Même plus.
Même plus, c'est-à-dire
ouais, c'est-à-dire, Jean-Bernard a eu la gentillesse de ramener une petite dégustation de breuil, par exemple.
Ah.
Et puis l'année dernière, il a créé une crème de petit lait de brebis.
On va tout vous expliquer ce matin, on va se régaler, c'est certain. C'est jusqu'à 11h, restez avec nous.
Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous sur France Bleu Pays Basque.
Avec le chef Cédric Béchat de l'auberge basque de Saint-Pé-sur-Nivelle, nous recevons Jean-Bernard Maïtia, qui est éleveur d'agneaux, qui fabrique aussi du fromage installé à Incil. Vous êtes à la tête d'un troupeau de 400 têtes d'agneaux, de brebis, c'est ça?
Alors, 400 têtes de brebis malèches, tête noire. Un troupeau de 400 têtes au total, sur lesquelles à peu près 300 brebis peuvent mettre bas dans la saison.
Le pastoralisme, l'élevage, tout ça, c'est votre milieu? Vous avez pris la suite de votre père?
Bon, j'ai baigné dedans sans trop savoir ce que ça pouvait être, jusqu'à à peu près il y a une quinzaine d'années, où je me suis trouvé confronté à une situation où je restais sur les pâturages avec mon troupeau, ou alors je l'ai quitté peut-être. Et c'est au quotidien, petit à petit, que je me suis aperçu de toute la richesse qu'on pouvait avoir là-haut et de tout ce qu'on pouvait développer avec le troupeau, quoi.
Parce que vous vivez complètement, Cédric, enfin, on parlait aussi après, mais vous vivez complètement en harmonie avec la nature, avec les éléments.
Le milieu est fantastique. On y est sur les hauteurs à peu près de fermé jusqu'à fin octobre. Et l'été, le potentiel est extraordinaire, quoi, en pâture. Et petit à petit, j'ai appris à composer, quoi, avec des éléments du quotidien, quoi. Hein, et puis on s'est aperçu que le fromage était fabuleux. Et puis après, derrière, on s'est intéressé un petit peu à autre chose, les recuites, les choses comme ça qu'on appelle le breuil ici. Et c'est super, quoi. C'est tout, quoi. Et puis la race elle-même, c'est une race ancienne qui est plutôt en déclin, on va dire, aujourd'hui, en tout cas dans la tête des éleveurs, mais qui a un potentiel de viande aussi à côté.
C'est laquelle?
Ben, c'est la Banèche tête noire, la Boulou Bensa.
Elle est en déclin? Je ne savais pas qu'elle est en déclin. Ouais.
On a perdu pratiquement la moitié des effectifs de tête noire en très très peu de temps.
Ah ouais?
Comment dire? Et puis. C'est pas un élevage qu'on a hyper sélectionné par rapport à la production de lait. Et du coup elle est délaissée économiquement, quoi, on va dire, par
au profit de races plus productives.
Oui, comme la tête rousse, c'est plus facile de travailler avec, ou la basque auvergnaise aussi. Mais on l'a remis au goût du jour, même chez les éleveurs, petit à petit. On a des projets avec quelques éleveurs de l'association qu'on fait avancer. Et on est en train de la faire reconnaître, de la faire redécouvrir petit à petit. On va y arriver.
Vous vous apprêtez à monter un estif. Vous avez prévu la date, je crois.
Ouais, ce sera aux alentours, on va dire, du 20 mai, avec aujourd'hui une date un peu précise, quoi, qu'on s'est fixé hier avec mes fils, le 23 mai.
Pourquoi le 23? Pourquoi une date précise quand on vit comme ça l'harmonie avec la nature? On pourrait dire, je vais peut-être monter la semaine prochaine s'il fait beau, mais pourquoi déjà vous savez que ce sera le 23?
Ben, le 23, parce qu'il faut s'organiser, tout simplement. Il faut être prêt le jour où on arrive en estive. Pour fabriquer le fromage et tout. Et donc, on se donne un objectif qui va être le 23 mai, là, maintenant. Et puis, si la météo ne le permet pas, eh bien, on ira un peu plus tard. Puis c'est tout, quoi.
Cédric Béchat, vous êtes allé, vous aussi, en estive avec Jean Bernard, il y a quelques années. Vous avez été subjugué par tout, je crois, l'environnement, enfin, tout cet univers.
Je ne sais pas si j'ai eu une profonde inspiration chez un autre éleveur ou un autre producteur, et puis la deuxième fois encore. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un nuage, quoi, tout simplement, ou sur un nuage là-haut. Il y a le paysage, il y a le caractère du paysage, il y a la méthode de travail de Jean Bernard, il y a l'alchimie qu'il a avec son troupeau. Là, il, très modestement, il vous disait, voilà, on prévoit, on a des objectifs et tout, mais quand il est vraiment en harmonie avec ça, il a une résilience, une vraie capacité de s'adapter, et il respecte profondément son troupeau. C'est son bijou. Il y a une fois, je me rappelle, la météo était pas évidente, et là il y avait une inquiétude. Son fils a été chercher le troupeau, et voilà, c'est comme du lait sur le feu, sans faire de jeu de mots. Et c'est un travail qui est profond. Faut s'en rendre compte de ce travail. Et j'avoue que quand je goûte son fromage, quand je goûte son agneau, et son agneau a une vraie typicité de par la race, de par sa vision, de par la vision que ses éleveurs ont. Et ça, je l'ai compris tout de suite quand j'ai goûté l'agneau. Et quand on goûte son fromage, c'est autre chose. On est là-haut. Moi maintenant, quand je le goûte, ayant eu l'expérience là-haut, je ressens les notes florales, les notes noisetées. C'est d'une finesse. Ça se suffit à soi-même. Bon, le fromage déjà, mais là, on est dans autre chose. Dans une autre dimension.
Nous, on dit là-haut, Jean-Bernard, mais c'est où là-haut et c'était à quelle altitude, en fait?
Alors, on va commencer par l'altitude. Le sommet est à 1400 mètres.
Ouais.
Le chalet est à 1300 mètres. C'est le chalet le plus haut du territoire de Cise, quoi. Hein. Et le lieu, il s'appelle Ourcoulou. C'est le massif d'Ourcoulou, sur la ligne de partage des eaux avec... On est à cheval entre Navarre et Basse-Navarre. On est au-dessus d'Orbaïseta, au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur un lieu qui a été hyper fréquenté depuis des milliers et des milliers d'années.
Quand je disais tout à l'heure que vous aviez repris la suite de votre père, il allait dans ce caillot-là aussi,
c'est ça? C'est mon père qui a amené le troupeau de la famille sur ces lieux dans les années 70. Auparavant, on transhumait sur... Il y avait une organisation familiale, le troupeau était confié à un frère, à ma grand-mère, qui était berger sur Irati. Et quand ce berger est décédé, mon père qui était sur l'exploitation, lui l'a confié à un de ses cousins qui était sur Ourcoulou à l'époque. Donc on est revenu sur Ourcoulou. Et quelques années plus tard, il y a un berger local qui m'a dit « c'est assez amusant ton histoire, parce que avant de partir sur Irati, le troupeau de ta maison, de la maison Minasaharia à Encine, était sur Ourcoulou ». Et c'était mon grand-oncle qui l'avait en charge. Donc voilà, c'était un retour finalement. Peut-être qu'on est fixé là-dessus, peut-être, j'en sais rien, on verra.
C'est une belle histoire.
Ouais, c'est joli.
Bon, on adore l'agneau, ça vous a pas échappé, Cédric? Dans les prochaines minutes, on va cuisiner un petit peu l'agneau. Vous allez nous donner quand même quelques recettes, quelques idées pour essayer de faire de bonnes choses à la maison. Nous sommes d'accord?
Ah ben, j'imagine.
Et peut-être un petit agneau confit.
Ah, une petite épaule.
Quelque chose qui fond là.
10h-11h, bienvenue chez vous sur France Bleu Pays Basque.
On est à Ourcoulou ce matin, on a pris de l'altitude ce matin avec Jean-Bernard Maïtia, qui est éleveur d'agneau, qui fait du fromage d'estive, et puis le chef Cédric Béchat, qui travaille avec Jean-Bernard Maïtia, le chef de l'auberge basque à Sapé-sur-Nivelle, une table étoilée évidemment. Alors, quand on a décidé de parler d'agneau, je vous ai dit tout de suite, il fallait qu'on ait des recettes, il fallait qu'on ait des idées, parce que c'est la fin de saison quand même, on approche de la fin de saison là, de l'agneau quand même.
Oh bah nous on a commencé là, c'est là où...
Juste commencé là, d'accord.
Ouais, on est en harmonie avec la saison.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on est que fin avril.
Disons que les codes de certains élevages et tout sont différents, on va dire. Voilà. Mais quand on est en harmonie avec la nature, non, ça commence. Alors ça commence, c'est souvent respecter les cycles, ça commence il y a des années, on a commencé plus tôt, Jean-Bernard. Voilà. Après, ça peut dépendre d'une géographie, ça peut dépendre d'un troupeau, ça dépend d'une race, ça dépend... Voilà. La manège tête noire, on a dit, elle se mérite.
Oui, pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, je lisais, comment on peut faire, Cédric, l'agneau à la maison pour se régaler? Peut-être une épaule, vous le disiez.
Moi, l'épaule, j'affectionne particulièrement.
C'est le gigot, une épaule, oui.
Le gigot, on connaît ce produit de façon assez traditionnelle. Mais l'épaule, avec cette viande-là qui est très fibreuse, qui est contre l'os.
Contre l'os, donc avec du goût.
Je pense que ça dépend si on est des gros mangeurs. Mais pour 4-6 personnes, on est bien. Donc un repas familial, et puis au pire, on en prend deux, quoi. Si on a à la maison une cocotte, on évite le papier alu, mais l'idée, ça serait de la cuire à l'étouffée. Donc, si on veut s'organiser, le soir, on la marque dans la cocotte, on la marque, on la rôtit. on la met avec une garniture aromatique. Alors après, chacun chacun fait avec de l'ail, du romarin, du thym. Essayer d'apporter des herbes aromatiques pour parfumer, bien sûr. On peut la piquer à l'ail aussi, si on veut. Hein, on peut faire une petite incision au couteau, mettre des petits morceaux de gousse d'ail qu'on a enlevé, dégermé, qu'on a coupé en petits quartiers, on la pique, si on aime l'ail. Ensuite, on la remet dans la cocotte, on couvre, on peut mettre un petit peu de bouillon de légumes si on a, ou un bouillon de viande, hein, bien sûr. On met 1 cm. Là, on va la braiser, on va l'étouffer, c'est pour apporter de l'humidité. Si on n'a pas de bouillon, on la met, on va parler de température après, elle va s'étouffer, on va la cuire à basse température toute la nuit. Donc, on va être tranquille, je veux dire, ça va pas brûler.
Ça peut se faire au four, à 80 degrés, justement, toute une nuit aussi.
Voilà, exactement.
Dans ce cas-là, il faut couvrir quand même un petit peu la nuit.
Il faut le couvercle, hein. Voilà, il faut le couvercle. C'est important qu'elle soit à l'étouffer, à l'étuver.
D'accord.
L'humidité, le jus de la viande va apporter cette... Moi, je préconise de mettre un peu de bouillon pour après cuisiner notre garniture.
Mais pour pas que ça sèche complètement.
Pour pas que ça sèche complètement.
Oui, c'est pas l'objectif recherché, nous sommes d'accord.
Si on n'a pas de bouillon, peut-être mettre à 65-70 degrés sur un four ménager. Comme ça, on va garder vraiment l'humidité de la viande.
D'accord. Et ça va concentrer le goût, le fait que ça cuise très très lentement à basse température, 80 degrés là.
Il y a le phénomène voilà d'expansion de chaleur qui va aller jusqu'à l'os et le jus de l'agneau va se retrouver un peu au fond de la casserole. Et là, on va avoir la concentration du goût de l'agneau et ça va nous faire un petit jus.
Qu'est-ce qui donne justement le goût de cet agneau, Jean-Bernard? Alors, c'est vous le spécialiste. Alors, qu'est-ce qui va faire qui sera vraiment absolument délicieux par rapport à un agneau qui sera bon, mais peut-être pas de la même façon?
Désolé. Il y a deux petits trucs qui m'ont je me rappelle d'une conversation avec Pellico Légas, il y a plusieurs années déjà.
Oui.
Et Pellico qui me disait, mais tu sais, l'agneau de lait n'a jamais été un mets de fête de fin d'année chez nous. C'est un mets de fête de fête de fin d'année en Espagne, mais pas chez nous. Chez nous, c'est la volaille en fin d'année. Par contre, c'est un mets de fête de printemps. Hein, c'est Pâques, c'est les communions,
c'est
toutes ces choses-là.
Oui.
Et puis quand l'équipe de Cédric m'avait été venu me voir jusqu'à la bergerie, c'était Clément qui était venu à l'époque, qui est
à l'époque c'était l'époque où Cédric était sportif, il était jeune et sportif, c'est ça.
Ouais. Il est encore.
Hein. Il se maintient.
Je voulais le faire réagir, mais il disait rien.
Il se maintient.
Ben oui.
Donc quand il était venu me voir, je lui avais dit, je vais vous faire de l'agneau, mais je vais vous faire l'agneau qu'on mangeait à la maison autrefois. Il y a l'histoire de l'agneau de lait à 45 jours, on en parlait en off tout à l'heure. 45 jours maxi. Pour moi, 45 jours, c'est mini. C'est pas pareil. À 45 jours, près de 2 mois, l'agneau a commencé à se nourrir d'herbes, de foin, de céréales à côté de sa mère. Du coup, le système digestif, il a commencé à fonctionner. Il y a toujours encore le lait qui est là, en base de nourriture de l'agneau.
Oui.
Mais il y a aussi le reste. Et puis, il se dépense un peu plus. Du coup, le muscle change. La couleur de la viande change. Et puis aussi, le format de l'agneau. Hein, on n'est plus sur des petites carcasses de 5-6 kilos. On est sur des carcasses autour de 10 kilos.
C'est muscle.
Donc, pour le cuisiner, à le présenter, c'est complètement différent aussi. Ben c'est là-dessus, quoi. Je vais pas dire que le petit agneau de lait, c'est pas bon, mais celui qu'on doit présenter dans une table de restaurant, il me semble, c'est autre chose, quoi.
Ça se tient mieux aussi, comme dit Jean-Bernard, c'est autre chose, c'est ça.
C'est ça, c'est une autre structure. Il y a pas de côté flasque, je trouve, qui souvent deviennent un peu à mastiquer, chewing-gum, une texture un peu chewing-gum, je crois. La carcasse, moi j'ai toujours aimé l'agneau entre 10 et 12, voilà.
C'est fou parce qu'on a longtemps et on continue à dire l'agneau de lait, c'est le summum en fait. C'est
Oui, on se convainc, on peut se convaincre de tout, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on regarde les choses et qu'on goûte et qu'on, comme dit Jean-Bernard, on aime le goût en fait. Hein, ben c'est ces détails-là qui font que le goût est différent.
France Bleu Pays Basque, bienvenue chez vous avec Stéphane Claverie.
Au milieu des agneaux ce matin avec Jean-Bernard Maïtia qui élève des agneaux. Cédric Béchad, le chef de l'auberge basque, est avec nous à Sapé-sur-Nivelle. On parle de l'agneau parce qu'on adore ça. Puis effectivement, c'est en mai de printemps. Pas tellement de fêtes de fin d'année, hein, Jean-Bernard Maïtia. Hein. Plutôt en fait en mai le printemps en fait qui arrive avec la jardinière de légumes, Cédric, les petits pois, choses comme ça, non?
Les asperges, les petits pois.
Ouais. Hein,
tout simplement aussi. Aujourd'hui, on fait annuler les brebis dans beaucoup d'élevages en octobre, novembre, et même octobre de plus en plus. alors qu'il y a 70, 80 ans, quoi, hein, et puis même un peu plus tard, quoi. Hein, les agnelages avaient plutôt lieu en janvier. Donc, janvier, les fêtes de fin d'année sont
passées. Pourquoi on en arrive là ? Pourquoi on a avancé la date comme ça ?
Il faut aller chercher peut-être des explications dans le développement de l'agro-industrie laitière dans le département. Voilà, et particulièrement en Pays Basque.
Donc pour la fabrication du fromage.
Ouais. Voilà. Les laiteries
ont besoin de lait. On a besoin de lait pour faire du fromage.
Pour faire tourner.
Donc on modifie les cycles, du coup, pour aller vers cette production.
Là, cette caractéristique qui peut être fantastique, c'est que normalement, la brebis, elle a un cycle de reproduction qui est saisonnier. Elle se reproduit un jour décroissant, comme le cerf, par exemple, comme la biche. Et donc, on avait des luttes, quoi, la reproduction, les accouplements, quoi, des brebis plutôt en fin d'été, fin juillet, août, voire septembre. Et comme elles se désaisonnalisent très facilement, liées à l'alimentation tout simplement, hein, si on l'alimente un peu plus, on peut la faire saillir beaucoup plus tôt dans la saison. Voilà.
Ça explique cela.
Ouais, les codes ont changé.
Expliquez-nous comment on vit un estive, Jean-Bernard Maïtia. Certains qui nous écoutent disent, mais il a de la chance, finalement, il sera au sommet, là, 1400 mètres, à partir du 23 mai. On vit comment ? C'est quoi une journée type, en fait, quand on est dans le Caillolard, là-haut ?
Une journée type en fabrication, pour moi, en tout cas, pendant la traite, quoi, pendant la saison de la traite, c'est... Je m'impose un truc, je ne démarre jamais les journées avant de voir le soleil se lever.
D'accord.
Quand on peut le voir, en tout cas.
Donc c'est quoi, 6 heures
devant le lever de soleil, si possible. Et puis bon, après...
6h30 à peu près.
Oui, des fois même un peu avant.
Un peu avant, oui. Ah, oui.
Et puis pour moi, côté travail, je vais commencer par tout la finition, quoi, du travail du breuil. La mise en pot, des choses comme ça, la préparation de la salle de fabrication. Entre-temps, les brebis vont faire une heure et demie de pâture avant de revenir sur le lieu de la traite. Souvent, elles viennent toutes seules, on n'a même pas besoin d'aller les chercher.
Elles ont une montre, elles regardent l'heure.
Ça, c'est magique.
Oui, elles me regardent faire, peut-être.
Bien sûr.
Et puis après, c'est la traite qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut prendre jusqu'à 4 heures, si je suis tout seul, par exemple.
La traite après, manuelle.
Oui. Et puis, je suis sur depuis 3 ans maintenant, je suis sur un modèle de monotraite en estive, c'est-à-dire que je vais les traire qu'une fois par jour, le matin, pour pouvoir fromager après tranquillement, et puis une fois fait le fromage, pour pouvoir prendre aussi un petit peu de temps, donc pour faire le breuil, ou la récolte ou préparer la récolte de la crème pour le lendemain, ou des choses comme ça, quoi. Et on finit la journée vers 17h, on va dire, tout ce qui est fabrication et tout, et puis après... une petite pause, et puis derrière, on va refaire un tour aux brebis, on va les ramener vers le parc, on va les préparer pour le lendemain, on va trier celles qui sont traites de celles qui ne sont pas traites, puis on va les accompagner pour une dernière pâture avant de les poser pour passer la nuit, pas trop loin du chalet si possible. Voilà, lever de soleil, coucher de soleil.
Un rythme très très différent en fait, hein, d'ici en bas, pas du tout la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est.
On peut le faire de cette manière-là. Ouais. Il y en a d'autres qui ne le font pas de cette manière-là. Moi, je le fais comme ça.
Vous avez des communications avec quand même le.
Le téléphone passe partout. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. On n'est pas déconnecté, quoi.
Non, vous écoutez la radio, par exemple.
Honnêtement, très peu.
Bon, merci, ça fait plaisir.
Non, mais c'est vrai que cette harmonie et ces valeurs, ces fondamentales font ces produits exceptionnels que je décrivais tout à l'heure. C'était pour le fromage, mais voyez le breuil. La première fois que je l'ai goûté, c'est différent. C'est un fromage frais, c'est une recuite. Donc on peut dire, moi, cuisinier recuite.
Qu'est-ce que c'est ? Vous expliquez-nous, parce que
c'est le petit lait donc qui reste après la fabrication du fromage.
C'est une ricotta.
Voilà, c'est une méthode
ricotta recuite.
Recuite.
Ricotta recuite. Ah oui, c'est la traduction, d'accord.
On recuit le petit lait. Et donc, ça, voilà ce que ça donne. Ce breuil qui. Et on se dit, moi je me suis dit, mais tout le goût est dans le fromage, forcément. Toutes les saveurs sont dans le fromage. Mais non, il reste encore. Mais parce que là, Jean-Bernard vient nous expliquer un peu une traite par jour. Donc on est sur la qualité, on est sur la sélection du produit, on est sur du pâturage. Et là, on retrouve avec un produit qui est d'une qualité incroyable, qu'on peut travailler Celui-là, le broyer, moi j'aime bien le laisser assez nature. La crème de petit lait de brebis, on l'a travaillé, on a fait une crème glacée l'année dernière, on a mis une fleur qui s'appelle la tagette dedans, qui a des arômes très très complexes, et il fallait la travailler très légèrement, cette crème de petit lait de brebis, avec des haricots verts. Voilà, avec quoi on a servi cette crème glacée de petit lait de brebis à la tagette.
Quand vous êtes monté, c'est vrai que vous êtes imprégné de tous les éléments, et dit tiens, avec tout ce que je vois, tout ce que je respire, je vais faire quelque chose.
J'étais dans un nuage quand je suis remonté dans la voiture pour redescendre vers Saint-Pé-sur-Nivelle, je me suis dit on fera un Agnolet des Prés. Moi j'étais sur vraiment un petit nuage, je me rappelle encore comme c'était hier. Hein. Et je ne savais pas encore quelle allait être la recette, en fait. Et la recette, elle a évolué depuis, mais en fait, c'est la sauce qui est essentielle. On travaille le gigot, l'épaule, l'agneau, Jean-Bernard nous le livre entier. Hein. Il n'y a pas de bas morceau. Et c'est une sauce, donc c'est un bouillon d'agneau. On va mouiller au lait de brebis, donc... tout ce que m'avait raconté Jean-Bernard, ce respect des cycles, je me suis dit, bah tiens, lait de brebis. Et à la fin, donc vous avez une sauce qui ressemble un peu à une sauce caramel, parce qu'elle a la couleur des sucres de l'agneau, elle est lactée par le lait, vous voyez.
C'est imprégné par les sucres, tout ça, ouais.
C'est imprégné complètement par les sucres, parce que c'est les os d'agneau qu'on a fait rôtir, qu'on a mouillé avec du bouillon quand même de viande et du lait de brebis, parce que si on met que du lait de brebis, ça va trancher. Et ensuite, même le lait de brebis est très riche en matière grasse, en bonne matière grasse, et donc ça nous lie la sauce aussi. Et ensuite, à la fin, le bouillon, on le filtre et on infuse des plantes de pâturage. Alors Jean-Bernard m'a envoyé la liste qu'il m'avait citée de plantes de pâturage, et certaines, nous, comme le sureau, la reine des prés, l'aubépine, qu'on fait infuser. Et ça fait une sauce qui est lactée et florale, et il y a une alliance, je trouve, avec l'agneau qui est merveilleuse.
Vous l'avez goûté cette recette, Jean-Bernard, ouais?
Je vais être honnête, encore une fois, pas encore.
Pas encore.
Il descend peu de l'estive.
Quand je peux m'échapper pour y avoir peut-être l'occasion de le faire. Ouais. Il n'y a plus d'agneau.
Il faut. Mais ça, c'est sublimer le produit là pour le coup là.
On va lui monter alors.
Ah ben avec plaisir.
Allez, tout de suite, on va vous offrir. Ah oui, avec un petit quiz agneau. Alors, autour des recettes de l'agneau, hein, ça va vraiment être accessible. Vous allez voir, Cédric va vous aider, donc il y a aucun problème. Il me faudra deux bonnes réponses et on vous offre ce lot de 4 assiettes Biarritz d'Assiettes et Compagnie. C'est la nouveauté 2023 avec donc cette collection Carnet de voyage qui vous propose un tour de la ville en un coup de fourchette. Alors il y a le Rocher de la Vierge, vous allez retrouver dessus le musée de la mer, l'hôtel du Palais, le phare. Bon, si vous aimez Biarritz, ces assiettes blanches traversent. C'est par la ligne Biarritz, il vous les faut à la maison. 05 59 59 17 17, on vous les offre. Allez, on joue. On va accueillir Marie-Claude. Il y en a au téléphone, je crois. Bonjour Marie-Claude.
Oui, bonjour.
Comment ça va Marie-Claude?
Très bien.
Alors là, on est en train de goûter, je vais tout raconter. Pendant Yvonne Mix, Cédric Béchat nous a fait une petite démo. Alors, c'est une recuite. Expliquez-nous ce que c'est exactement, ce qu'on a mangé. Peut-être Jean-Bernard.
Jean-Bernard va nous expliquer le braille.
Le braille qu'on appelle aussi graille. Qui est une traduction du béarnais qui veut dire.
Greuil, vous connaissez ce nom de Greuil, vous.
Oui, Greuil, la traduction du béarnais qui veut dire grain.
Voilà. En tant que béarnais, pour moi, c'est le Greuil.
Ouais.
C'est
bien. Mais le broil d'Ourcoulou, c'est le meilleur.
Ah oui, oui.
Donc le broil, c'est le petit lait qui est recuit.
Oui. Hein,
après le fromage, on a le résidu qui s'appelle petit lait, le lactosérum. Et donc le broil. Est un produit de lactosérum. Le petit lait est recuit jusqu'à 80-90 degrés. Et du coup, on a une agglomération, une flocculation de toute la matière protéique en surface. Et on a ce produit qui peut être mousseux, qui peut être plus granuleux selon
exactement. Il n'a pas toujours la même texture en fait. Hein.
Il peut être un peu plus sec, un peu plus aérien, comme dit Jean-Bernard. Oui.
Marie-Claude, je peux vous demander quelle est votre recette d'agneau préférée quand vous en avez à la maison? Comment vous le préparez?
Moi, j'aime bien l'épaule d'agneau farcie, j'aime bien tout ce qui est agneau, de toute façon.
Ah, bah, très bien, bah, vous êtes bien alors là.
Ça fait plaisir à entendre, ça.
Oui, exactement, c'est vrai. 3 questions autour de l'agneau et de ses recettes. Vous me donnez 2 bonnes réponses. Vous avez droit à 1 joker. D'accord, ok?
Oui.
On y va? Quel est le nom de ce ragoût d'agneau, Marie-Claude, réalisé avec des morceaux d'épaule? On y met des carottes, des navets, on peut mettre des pommes de terre, des oignons. Est-ce que c'est un savarin, un navarin ou un haricot d'agneau?
Un navarin.
Parfait. Magnifique.
Navarin d'agneau. Oui, vous en servez de temps en temps au restaurant ou
Non, parce que non. C'est vrai qu'on s'est inspiré du monde de chez Jean-Bernard, mais c'est un plat qui
pas de navarin. D'accord, oui, c'est vrai. De quelle ville les pieds et paquets sont-ils la spécialité? Les pieds et paquets, ça vient de Lyon et de Grenoble, de Castellane et de Nice ou de Marseille et de Sisteron?
Alors là, je vais demander de l'aide parce que je n'en ai pas la moindre idée.
Ah, il faut vraiment aller très au sud. Il faut vraiment aller très au sud, vers Marseille, je pense.
Voilà.
Eh ben oui, c'est Marseille, effectivement. Sisteron, les pieds paquets, on peut expliquer ce que c'est, ce que sont les pieds paquets?
Les pieds paquets, c'est les pieds d'agneau qui sont confits. Alors, on a le côté un peu gélatineux et qu'on va confire, qu'on va cuire au bouillon et ensuite qu'on va laisser refroidir et qu'on va paner et puis frire.
Quel est le nom, Marie-Claude, de cette recette de cervelle d'agneau farinée puis poêlée dans du beurre et qu'on va servir avec juste un filet de citron? Est-ce que c'est la cervelle panée, la cervelle charcutière ou la cervelle meunière?
Moi, je dirais la cervelle meunière.
Elle est forte, hein. Elle est forte, bravo, félicitations.
C'est évident, en plus, cette dernière question.
Ouais, c'est...
Merci.
Moi, j'ai souvenir que quand on était petit, on mangeait la cervelle.
Ah oh bah oui, on en voit plus. Hein. Enfin, j'ai plus l'habitude d'en voir. Il doit y avoir quelques restaurants quand même qui ont ces traditions tripières encore, mais c'est vrai qu'on en voit plus.
Comment ça se fait, Jean-Bernard? Mais c'est vrai qu'il y avait la cervelle. On disait c'était
la tête
bon.
Aussi qui était cuisinée.
Oui, oui, exactement. Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un aspect psychologique? Est-ce qu'il y a l'aspect vétérinaire peut-être aussi qui nous a éloigné de ce genre d'abat?
Pendant plusieurs années, les têtes étaient saisies à l'abattoir.
Oui, il y avait eu une interdiction pendant quelques années, puis je crois qu'à nouveau on peut les consommer, mais du coup ça n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on en retrouve.
Bon, c'est pas,
l'engouement n'a pas repris.
Pas très développé, mais si on, enfin, moi en tout cas, si, quand j'ai des clients qui me les demandent, je les arrête à l'abattoir et ça marche, quoi.
D'accord, oui.
On peut les récupérer, ouais.
Marie-Claude, je suis content pour vous.
Merci beaucoup.
On vous offre les assiettes de Béatrice Penn, d'Assiettes et Compagnie, de la collection Biarritz. Ouais. Vous allez voir, elles sont vraiment super belles. Ce sont des belles assiettes qui font 22 cm de diamètre. Elles sont magnifiques. Vous ne raccrochez pas, il y a Isabelle qui va tout vous expliquer.
Merci beaucoup.
On vous embrasse, à bientôt.
Au revoir et bonne journée. Vous.
Merci beaucoup, à bientôt, bon week-end.
Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous sur France Bleu Pays Basque.
Avec le chef Cédric Béchade de l'auberge basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, une table étoilée qui cuisine particulièrement bien l'agneau, on l'a compris. Et puis Jean-Bernard Maïtia, son producteur, éleveur d'agneau, donc sur les hauteurs à Ourcoulou. Jean-Bernard, on n'a pas parlé de la vente de vos produits. Comment vous vendez vos produits? Parce que vous pouvez pas être au four et au moulin, comment ça se passe?
Pour ce qui est de l'agneau, il y a...
Les tables avec lesquelles vous travaillez, donc il y a l'auberge basque, mais il y a beaucoup d'autres restaurants avec lesquels vous travaillez?
Non, il n'y en a pas tant que ça. En ce moment, il y a Chocomona qui va le proposer.
Espelette.
Ouais. Clément qui a travaillé avec Cédric plusieurs années.
Chez nous.
Clément et Flora.
Et Flora.
Voilà. Pas oublier Flora, hein, surtout.
Non. Et le Chaya à Saint-Jean-de-Luz, avec qui je travaille aussi pas mal, mais je ne sais pas si je vais être en mesure de leur fournir de l'agneau cette année. S'ils m'entendent, ils vont me tirer les oreilles. Et puis juste à côté de la maison, ainsi, l'hôtel-restaurant Pécoïs, hein, qui va aussi le servir là, jusqu'au mois de juin, je pense. Qui va travailler différemment que Cédric et Clément, mais qui le travaille aussi très bien. Mmh. C'est bien.
Ça suffit pour écouler tous vos produits? Juste 4-5 tables,
moi,
comme ça?
L'agneau, c'est à peu près, on va faire une fourchette large, c'est entre 100 et 150 agneaux qui sont commercialisés dans l'année. À peu près une centaine, comme ça, directement par la restauration. La vente directe, si les particuliers en veulent, si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas.
Ça, vous n'êtes pas emballé par la vente directe, hein, parce que même quand je vous en ai parlé au téléphone, vous me dites « oui, mais la vente directe, ça ne marche pas trop ».
Bon, l'agneau, c'est plus compliqué, parce que souvent, on la demande... Enfin, les restaurants la travaillent en carcasse, donc c'est facile à travailler avec eux. Hein. Par contre, le particulier, il va le demander découpé, sous vide, des choses comme ça.
Ou un demi-agneau. Souvent par demi aussi, non?
Oui, mais le particulier souvent le demande déjà conditionné, donc je ne suis pas trop fan pour répondre à ce genre de choses.
D'accord.
Ça peut se faire, mais bon, il y a une autre organisation. J'ai eu travaillé avec des plateformes et des choses comme ça, des plateformes de vente par correspondance, et puis ça peut se faire, hein, mais bon, c'est pas, je ne suis pas trop... Voilà, il faut du temps pour... Après, pour ce qui est du fromage, bon, c'est facile, notamment le fromage d'Estive. Bon, il y a les restaurants, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs crémiers aussi qui travaillent. Qui le travaille, et puis on ne va pas oublier Beignat, Beignat qui m'a mis les pieds à l'étrier quelque part et qui m'a poussé à le travailler. Le Breuil, c'est pareil, hein. Beignat, il y est pour beaucoup, avec un petit hommage à M. Alain Ducasse qui nous a donné un coup d'aiguillon à un moment donné pour travailler le Breuil. Voilà, quoi. Hein. Et puis c'est essentiel, quoi. Hein.
Ce qui est magique dans le fromage, là, Jean-Bernard nous a descendu donc les deux premiers agneaux et puis des tomes de brebis d'estive, donc ouais. Millésime 2023. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans d'affiner ces tomes de brebis, ce fromage de brebis. Et là, en plus, elles sont affinées à 1400 mètres.
Ouais.
Donc, ça donne encore une part de magie
supplémentaire. C'est encore autre chose.
Et c'était un peu ce que je vous décrivais au début de notre échange. C'est-à-dire que, au niveau arôme, ça n'a pas goût de sel, ça a goût d'arôme, quoi. Il y a des arômes floraux, lactés.
C'est fou comme il y a plein de paramètres, en fait, qui influent directement sur le goût.
C'est du micro-détail, Stéphane. Du micro-détail, en fait.
Bravo, Jean-Bernard Maïtien. Merci d'avoir été notre invité. C'était pas facile de vous venir parler à la radio. C'est la première fois que vous venez, non ?
Non.
Ah.
J'étais déjà venu dans les locaux de France Bleu avec Baptiste Pécoïs, mais pas avec vous.
Ah oui, excuse-moi,
sur une émission entre, je ne me rappelle plus avec qui c'était de 11h à midi, il me semble.
D'accord, ok.
Voilà, j'avais passé aussi un joli petit moment, comme aujourd'hui.
Ah ben oui, super, on était content de vous accueillir.
J'ai insisté pour faire venir Jean-Bernard.
Vous avez eu raison. Merci beaucoup. Merci Cédric Béchad.
Avec plaisir.
L'auberge basque à Saint-Pétion d'Hiver pour se régaler. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment-là ? Allez, un plat phare, là.
Eh ben, l'agneau qui arrive, bien sûr, il est là maintenant, on vous l'a dit, l'agneau au lait des prés. On a fait une petite salade de fraises. C'est un sorbet à la roquette, à la pimprenelle avec une mousse fraise. Les premières fraises, je les travaille comme ça, moi, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'asperge blanche au curcuma des Landes, de la ferme d'Arrigade et aux cacahuètes de Souston.
C'est parfait, ça a l'air très bon ça. C'est délicieux. Merci à tous les deux en tout cas. À très bientôt. Merci.
Ça marche.
Au revoir, merci.